Chapitre 2. L'empreinte du pied. Le lendemain matin, à mon tour, je vins, selon une convention arrêtée, vers 8 heures, chez Martin Numa. J'y trouvai Prosper. Martin Numa, enroulé dans une robe de chambre, vint s'asseoir devant une petite table sur laquelle son valet de chambre avait disposé le chocolat et les croissants de son petit repas. Quand il eut fini, il dit à Prosper « Donnez-moi donc les bottines et celles du Niaf, celles que nous devons à Octavie la danseuse. » Prosper prit, dans un cartonnier qui lui désigna son chef, les fameuses bottines, et sur la table, celles prises chez le marquis, on sait au prix de quelle audace, de quel courage. Comme il faisait toujours, Martin Numa les examina une à une, longuement, patiemment, méticuleusement, les compara, les mesura. Les bottines prises chez le marquis Primo di Carmine et Santucci ne correspondent pas à celles du Niaf. Celles mises chez ce brave homme et découvertes par nous n'ont jamais appartenu au marquis. Elles ne révèlent ni la forme des pieds du marquis ni sa pointure. Rien, rien. Martin Numa, après un court silence, tenant toujours en main les bottines, ajouta « Et cependant ?»« Cependant je connais cette pointure, celle des bottines du Niaf. Je la connais. Je suis certain de l'avoir eue entre les mains, de l'avoir notée, de l'avoir étudiée. Peut-être, hasardai-je, est-ce celle du capitaine ?» Celle de la bottine aussi abîmée du talon, mais par l'éperon. Martin Numa me regarda. « Ah, c'est une idée. C'est une hypothèse à étudier. Je verrai ça. Je verrai ça. » Il s'était approché de la croisée et de nouveau examinait les bottines du Niaf. Cette fois, la loupe se trouvait dans ses mains. « Cette bottine, dit-il enfin, est, si je puis m'exprimer ainsi, un véritable nid à surprise. Plus je l'étudie, plus je l'examine, plus j'y trouve des choses déconcertantes. Qu'y voyez-vous de nouveau ? » Martin Numa attendit quelques secondes et nous dit « Mon attention, en premier, et jusqu'ici, s'était portée sur la forme de la blessure. Je me suis attaché à voir si les raflures correspondaient exactement aux moulures de cuivre. Enfin, si c'était bien au pied de la table de travail du banquier. Les raflures s'adaptaient exactement ? Exactement, oui, exactement. » Or, voici qu'en regardant de plus près, ici, mis au jour, avec ma loupe, je remarque un rien. Un détail infime, assurément, en apparence, mais qui peut avoir une importance. Qu'est-ce que c'est ? Il me semble que l'éraflure n'est pas aussi franche que je l'avais cru tout d'abord. Ah ! On dirait qu'elle a été produite non d'un seul coup, d'un seul trait, comme cela serait tout naturel, mais en plusieurs pressions, à plusieurs reprises, comme avec hésitation. C'est étrange, en effet. Il y a, dans les traits de l'éraflure, comme un arrêt, puis une reprise. Des lignes perpendiculaires n'ont pas la même profondeur tout le long de l'éraflure. Elles forment vagues, avec haut et bas. Et elles sont coupées par des lignes horizontales qui signalent un arrêt et un brusque départ à nouveau. Martin Numa ajouta « Or, une éraflure, faite brusquement, d'un coup violent, n'a pas de ces arrêts, de ces reprises. Un coup de pied donné avec violence n'a pas d'hésitation, n'est-ce pas ? Non, en vérité. » Reprenant la bottine sur la table, il conclut « Cette éraflure aurait été faite exprès, avec intention, que je n'en serais nullement surpris. J'ajoute même que je commence à croire que cette éraflure a été faite non seulement après coup, mais avec la main. Avec la main. Oui, ce n'est pas au pied que se trouvait la bottine quand on la détériora ainsi, mais à la main. À la main. » Cette constatation, qui était de la plus haute importance, nous causa, à Prosper et à moi, une véritable angoisse. Nous eussions voulu connaître les déductions que tirait Martin Numa de cette nouvelle découverte. Mais Martin Numa me dit « Maintenant, au revoir, mon cher Courville. À tantôt. J'ai à m'habiller. J'ai à sortir. Je vous donnerai un nouveau rendez-vous, sous peu. Au revoir. » Je me retirai donc, très anxieux, très intrigué. Je me doutais que Martin Numa, ayant fait cette nouvelle découverte, cette constatation, allait se lancer sur cette nouvelle piste, et chercher la solution de ce problème nouveau qui se posait à son esprit sagace et ingénieux. Je n'avais donc désormais qu'à attendre. Martin Numa m'avait fait part, en somme, de ce que nous appelions entre nous l'énoncé du problème. Donc il avait l'intention de m'en faire, quand le moment serait venu, connaître le résultat, la déduction, la solution. Vers 2 heures de l'après-midi, Martin Numa se rendit à la banque Castagnier. Comme la première fois, il se fit conduire par le caissier dans le bureau du banquier. « Cette affaire, dit-il au brave homme, est des plus compliquées, des plus difficiles. Songez, monsieur Morisson, que nous tenons la signature de l'assassin, que nous avons un peu de ses chaussures et que nous ne parvenons pas à le découvrir. C'est pénible, en effet. Je suis dans l'obligation de venir étudier le pied de la table de M. Castagnier. J'espère bien découvrir un de ces riens qui me mettront définitivement sur la bonne piste. Oh, je vous le souhaite de grand cœur. » Le caissier abandonna donc, comme la première fois, Martin Numa et retourna à ses occupations. De nouveau, minutieusement, il étudia les raflures et les moulures du pied de la table. Puis, sortant l'autre bottine d'une poche de son long par-dessus, il alla se poser à genoux sous la table, près du pied voisin. Ce pied était ornementé d'une moulure de cuivre absolument semblable à celle contre laquelle la bottine du criminel s'était abîmée. Martin mit la main dans la bottine. Il appuya la bottine vernie contre la moulure et pressa vivement. Elle s'érafla. Mais pour que les raflures fussent suffisamment grandes, aussi grandes que celles que portait celle du Niaf, du Bounia, Martin Numa dut faire plusieurs pressions. Il venait d'acquérir la certitude que la bottine éraflée trouvée chez le Niaf avait été abîmée exprès, non d'un coup de pied, mais par une pression voulue de la main. Et Martin Numa haussa les épaules en disant « Ah, les malins la manquent, comme disent ces gentlemen spéciaux. À vouloir être trop habile, on devient stupide. Ils se sont donné la peine de venir ici pour érafler avec la main une bottine, croyant me lancer sur une fausse voie, en me faisant découvrir avec une si grande facilité cette bottine truquée. Ils espéraient me jouer, se moquer de moi. Ils se sont imaginés que je serais assez naïf pour prendre au sérieux leur stratagème enfantin, que je ne devinerais pas leur ruse. Peut-être m'ont-ils cru doté de la candeur de la danseuse Octavie. » En riant, il ajouta « Ils ont oublié ma loupe, la fameuse loupe, qui amuse tant mon brave ami Courville, mais qui me rend d'assez remarquable service. » Et il conclut « Tandis qu'il était si simple de se mettre au pied une bottine vernie, surtout d'une autre pointure, et de venir la gratter ici, comme l'autre, carrément, franchement, nettement. » C'eût été une nouvelle bottine portant des traces vraies, indiscutables, une nouvelle pièce à conviction. Alors, entre ces deux chaussures, je pouvais hésiter. Ne pas savoir reconnaître la bonne, celle que portait l'assassin le jour du crime. Dans ce cas, certainement, je pouvais me trouver fort embarrassé, demeurer décontenancé. Mais une bottine, travaillée à la main, quelle plaisanterie. Allons, ces gens sont forts, oui, mais ils ont le tort de vouloir être trop forts.